A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour Bernard Chabat. Dis donc, qu'est-ce que ton look est superbe.
Merci.
Je t'ai appelé parce que j'ai encore un problème d'ordinateur qui bug quand je...
Bonjour. Bonjour. Eh ben ça tombe bien, oui. On est là pour ça.
Ah, mais en fait, peut-être aussi que je t'ai fait venir pour te parler d'un secret caché au fond de mon cœur qui...
Ouais, ben je comprends bien ton souci. Eh ben on va tâcher de gérer le problème.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais c'est quand même l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à une rivalité véridique. On vous a peut-être souvent déjà posé la question, vous êtes plutôt Mac ou plutôt PC? Bon, maintenant on dit plutôt t'es plutôt iPhone ou t'es plutôt Android. Mais là, aujourd'hui, c'est Bill Gates contre Steve Jobs. Une vraie rivalité qui a vraiment eu lieu. Et Aurélie est avec moi aujourd'hui pour trancher entre ces deux stars de la tech. Comment ça va?
Bah ça va très bien, et toi?
Bah ça va, merci.
Ravie d'arbitrer ce combat au sommet.
Ouais, t'es spécialiste en mission dangereuse quand même, parce que la dernière fois tu t'es occupé d'arbitrer entre Christiane Taubira et Eva Joly, c'était pas facile.
C'est vrai que je prends des sujets qui sont des challenges, des sujets où les gens sont en plus un peu à cran, voilà.
Ouais. Bah, y a sans doute plus de rivalité entre Mac et PC qu'entre Taubira et Eva Joly, mais je pense que la rivalité s'est un petit peu éteinte ces dernières années au profit de la rivalité plutôt Android iPhone.
Mais surtout depuis la disparition de Steve Jobs, je pense.
Ouais. Mais bon, ça reste, je pense, des débats toujours d'actualité chez les gens qui s'intéressent vraiment de près à la tech. Bon, il y a aussi Linux au milieu qui défend son approche logicielle libre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te pencher sur ce sujet ?
Quand même de la rivalité évidente, je pense. C'est un match tellement évident que j'avais envie de me dire, mais c'est vrai en fait, qui est le meilleur entre les deux, et du coup de travailler dessus. Et puis j'ai une petite fascination pour le personnage de Bill Gates, qui a été quand même l'homme le plus riche du monde pendant un certain nombre d'années, devancé maintenant par Jeff Bezos, si je me trompe pas.
Bah ouais, je crois que c'est l'homme le plus riche du monde maintenant.
Et donc, j'aime beaucoup les deux personnages, et puis j'utilise beaucoup de produits Apple, donc forcément, deux personnages mythiques, j'avais envie de me frotter un peu.
Cet épisode a été préparé sur un Mac, du coup?
Oui, j'avoue. Sur un Mac et un iPhone. Mais bon, ça ne va pas nous influencer.
Non. Alors, avant qu'on lance les hostilités, est-ce que tu te sentirais de rappeler brièvement qui est qui, même si on va finalement
bien
passer
sûr
l'épisode à en parler en détail?
Mais... Évidemment, mais c'est très important d'avoir un peu des repères.
Des jalons.
Alors déjà, il faut savoir qu'ils ont le même âge, ils sont tous les deux nés en 1955. Steve Jobs est né à San Francisco d'un père syrien et d'une catholique américaine, et ses parents ont été forcés de le faire adopter. Donc il a été adopté par Paul Reynolds Jobs et sa femme Clara Agopian. Il a vécu en Californie, grandi à Los Altos, et il rencontrera au lycée un nom qui ne vous est pas inconnu, Steve Wozniak, son célèbre acolyte, bien sûr. En 72, il commence l'université, mais rapidement il va arrêter les cours et il commence à travailler dès 74 chez Atari pour le jeu vidéo Breakout, avec son ami Steve Wozniak, du coup. En 76, ils sortent un prototype d'ordinateur et commencent à monter Apple. Une aventure qui commence donc avec l'Altair. On va en reparler de l'Altair. Retenez bien ce mot. L'Altair ou l'Altair, je sais pas comment on dit.
Je crois que c'est l'Altair, ouais.
Et en fait, ils vont réunir tous les composants informatiques de cet Altair sur un seul et même support avec une interface, un écran, et ça va donner l'Apple 1. Un des premiers ordinateurs. Donc après, il y aura l'Apple II en 77, en 80, début de la fortune de Steve Jobs, puisque Apple rentre en bourse. En 83, l'Apple Lisa, du nom de sa première fille. En 84, là c'est le début de Apple tel qu'on le connaît, avec le lancement du premier Macintosh. Mais la vie de Steve Jobs n'a pas été toute rose, puisqu'en 84, il est poussé dehors de sa propre boîte d'Apple, notamment après avoir embauché John Sculley, qui travaillait chez Pepsi ou chez Coca-Cola. Et donc ce type-là, après s'être fait embaucher par Steve Jobs, l'a gentiment dégagé de l'entreprise. Donc il quitte Apple en septembre 85 et fonde une deuxième entreprise Next qui sera un échec. Mais en 86, il rebondit puisqu'il va racheter une société de films à George Lucas Company qu'il va en fait transformer en Pixar. Et donc là, deuxième excellent investissement de sa carrière et notamment Toy Story qui sort en 95. Il va réintégrer Apple en 96 et là, il va sauver un peu la compagnie qui n'allait pas très bien sans lui. Et s'en suivront des révolutions, celles qu'on connaît, l'iMac, l'iPod, iTunes, bien sûr, l'iPhone en 2007, puis l'iPad en 2010, on ne s'arrête jamais. Et Steve Jobs est décédé en 2011 d'un cancer du pancréas, il laissera 2 enfants, il est mort à 56 ans.
Ok.
Voilà, c'est un peu bizarre de faire un duel contre un vivant et un mort, mais...
Ça nous arrive de temps en temps. C'est pas la première fois.
Donc lui, Bill Gates, lui, il est né en 55. Dans une famille très aisée de Seattle, il a eu vraiment une enfance et une éducation dans des bonnes écoles, réputées, privées. Il a été très choyé par ses parents. Voilà, donc il prend option informatique et c'est là, à l'école aussi, qu'il rencontrera son ami toujours, Paul Allen. Il commence la programmation à 13 ans au sein de l'école, donc un peu totalement autodidacte, et il concevra son premier programme informatique encore à l'école. Donc à 18 ans, il rentre à Harvard et il rencontrera son deuxième bras droit, le deuxième homme de sa vie un peu, Steve Ballmer, qui est aujourd'hui CEO de Microsoft. Lui aussi, il va arrêter les cours assez tôt pour se consacrer à sa vraie passion, l'informatique, et il va inventer avec Paul Allen le BASIC, qui est le premier langage informatique à fonctionner sur un ordinateur commercial. Alors j'ai peur de me tromper parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais il me semble qu'il a inventé en réalité l'interpréteur du BASIC, qui est la petite pièce qui manquait pour que le langage informatique soit vraiment utilisé et utile. Enfin,
pour les ordinateurs personnels.
Voilà, c'est ça, les ordinateurs personnels. C'est exactement, c'est le premier langage informatique à fonctionner sur un ordinateur commercial, donc destiné au grand public et pas forcément à des grosses boîtes. En 75, il va fonder Microsoft. Et sa première invention, le BASIC, devient le premier produit. Il restera à la tête de Microsoft jusqu'en 2000 et il va accroître, il va amasser une fortune qu'on sait bien sûr impressionnante. Il est persuadé qu'un jour tout le monde aura un ordinateur. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout, parce que ça venait d'être inventé, on savait même pas comment ça marchait. Et c'est là où il a eu un éclair de génie de se dire, tout le monde aura un ordinateur, donc je vais faire en sorte de vendre ces ordinateurs. Donc il va créer des programmes qui fonctionnent et qui soient accessibles à tout le monde, avec notamment un premier partenariat avec IBM en 80. Là aussi, on y reviendra, mais il a eu un bon coup de génie. Il a également travaillé avec Apple. Au début, ils travaillaient pas mal ensemble avec Steve Jobs.
Il a fourni le basique pour l'Apple II, c'est ça ?
Ouais, jusqu'au Macintosh.
Ouais.
Et après, ils se sont séparés. Après la création du Macintosh, on a le début de leur vraie rivalité entamée, quoi. Microsoft, c'est bien sûr des systèmes d'exploitation, des logiciels de traitement de texte, du classement d'informatique. Et puis, évidemment, le lancement de Windows en 85. Au début, c'est une interface très compliquée à utiliser, pas du tout instinctive, mais en 10 ans, jusqu'à Windows 95, ça devient le logiciel le plus vendu au monde. Il y a des vidéos sur YouTube où des gens se battent pour acheter le plus possible de Windows, de la dernière version de Windows. C'est impressionnant. Il a une emprise sur le marché, donc ce type de marché, de 90%, à tel point qu'on l'a accusé d'avoir organisé un monopole et donc d'être dans l'illégalité.
Oui, ils ont eu des problèmes avec la justice.
On l'a menacé de dissoudre Microsoft. Lui, il rentre en bourse en 86, il devient milliardaire évidemment, il est la personne la plus riche du monde à partir de 96. En 2000, il va fonder la Bill et Melinda Gates Foundation. Et à partir de 2008, il va quitter la direction opérationnelle de Microsoft et laisser le relais à Steve Ballmer. Et alors, du coup, tous les deux, ils ont eu une relation, ils se croisaient vraiment très régulièrement, ils ont travaillé ensemble, bien sûr.
Tu parles de Jobs et Gates.
Ouais, Steve Jobs et Bill Gates, pardon. Et Bill Gates disait, à propos de Steve Jobs, lui et moi, on a un peu grandi ensemble. Et la dernière fois qu'ils se sont vus publiquement tous les deux, c'était en 2007.
D'accord. Ok, bon bah là je pense qu'on voit bien qui est qui, c'est intéressant, merci beaucoup. Est-ce qu'on lance tes hostilités du coup ?
Allons-y, on est prêt.
Steve Jobs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour présenter votre nouvel objet, c'est un honneur.
Oui, ceci est une révolution, nous l'avons appelé le iPhone.
Un iPhone, waouh, super !
Juste entre le iPhone et le iPad.
Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Tout, car ceci est une révolution. Il a l'écran plus grand qu'un iPhone, pour ceux qui n'arrivaient pas bien à voir, et plus petit qu'un iPad, pour ceux qui trouvaient un peu grand.
Et je peux garder les applications que j'avais achetées pour mon iPad ?
Non, car ceci est une révolution. Il faut tout racheter.
C'est dingue, quelle créativité. Le chargeur et le casque, c'est les mêmes quand même.
Non, car le iPhone est vraiment une révolution. Il faut tout racheter.
Déjà, mais c'est génial. Et la housse de mon iPad, je peux quand même mettre mon iPhone dedans?
Non, car c'est une révolution même au niveau de la housse. Le iPhone n'entre pas dans la housse de l'iPhone et flotterait dans une housse de iPad. Il faut donc tout racheter.
Steve Jobs, il rend indispensable ce dont nous n'avons pas besoin.
Alors, première question, pas facile à trancher pour des béotiens comme nous, mais c'est pas grave, rien ne nous arrête. On voudrait savoir qui a été le plus innovant d'un point de vue technologique. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, c'est vrai que c'est la question la plus difficile à trancher déjà parce qu'il faut bien saisir tous les tenants et les aboutissants de comment ils ont fait avancer la technologie, ce qui a été très compliqué à comprendre pour moi. Ouais. Mais aussi parce que, honnêtement, j'ai envie de leur donner le point à tous les deux, mais bon, il va falloir trancher à la fin. Déjà, donc Bill Gates, on l'a dit, il a inventé un traducteur de langage informatique qui a fait que le langage informatique était accessible à tout le monde via des ordinateurs personnels. Et Steve Jobs, lui, il a inventé et vendu des objets qui se sont vraiment incrustés dans notre quotidien. Il a inventé un espèce de système, la galaxie Apple, qui fait que quand on a un produit Apple, on est obligé de tous les avoir parce qu'ils fonctionnent tous ensemble.
Oui, je me permets une intervention. C'est vrai qu'on résume souvent de la façon suivante que Microsoft était une entreprise de software, alors que Apple était à l'époque une entreprise plutôt de hardware, de création de matériel qui après a fait son propre software petit à petit. Mais
bah, sur France 5, dans un documentaire, il disait que c'est les deux facettes de la même révolution technologique. Bon, alors pour rentrer un peu plus dans les détails, donc la première vraie invention de Bill Gates, c'est ce truc, l'interpréteur, donc le moyen de faire fonctionner un code, un langage sur une machine. En 73 et en 75, ils ont inventé les deux premiers au monde, en fait, l'Alter Basic. C'est le premier interpréteur de Basic. C'est un peu compliqué quand on n'est pas dans le vraiment dans le milieu. Mais en gros, c'est le premier micro-ordinateur et langage informatique vendu aux particuliers. Donc sans l'intervention de Bill Gates, ça n'aurait pas fonctionné. Mais en même temps, il n'a pas inventé les composants principaux. Mais il a quand même permis au plus grand nombre d'utiliser des ordinateurs. Et puis après, il concevra, donc on l'a dit, pour Microsoft, avec Microsoft pour IBM, un système d'exploitation qui s'appelle le MS-DOS.
Oui.
Et Et après, donc, il va transformer cette invention pour la porter en plus grand nombre, rendre l'ordinateur le plus accessible possible. Et ça va donner, évidemment, Windows une vraie révolution. Comme je disais, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour acheter du Windows. Et Bill Gates comprend tout de suite que c'est ça, l'avenir, que c'est le personal computer. Et du coup, son système d'exploitation et ses logiciels liés. Et c'est vrai que aujourd'hui, Microsoft, quand on a un PC, c'est incontournable. On est obligé d'utiliser Microsoft.
Oui, c'est-à-dire
soit, ou ses affiliés, bien sûr.
C'est-à-dire soit on achète un Mac et on n'utilise pas, on n'a pas de système d'exploitation Windows, soit on utilise une suite logicielle libre comme Linux ou quoi, mais ça c'est vraiment réservé à des gens qui s'y connaissent vraiment bien. Et sinon, bah, dans 90% des cas, ou peut-être moins maintenant, mais enfin, effectivement, on se retrouve avec un ordinateur qui tourne sous Windows.
Ouais.
Sous cette fameuse interface graphique qui était la première, si j'ai bien compris.
Ouais. Bah non, c'est Apple qui a inventé l'interface graphique et ça a été récupéré après par Microsoft avec Windows. Mais pour te donner un chiffre, Windows 95, en 5 semaines, c'est 7 millions d'exemplaires qui se sont vendus.
D'accord, ouais, c'est incroyable. Mais je me souviens, figure-toi, de la sortie de Windows 95.
Ah, ouais. Moi, j'avoue que je ne m'en souviens pas.
J'avais 14 ans, mais je m'en rappelle.
Au contraire d'Apple, donc voilà l'innovation fondamentale de Bill Gates, si on peut la résumer à ça, c'est rendre accessible l'ordinateur à tout le monde. Et en même temps, Apple a sorti différents produits qui chacun ont été des petites révolutions dans le monde technologique, genre l'iPod, ça a été une révolution de l'industrie musicale parce que est sorti en même temps iTunes et Apple Music. L'iPhone, c'est l'invention de l'écran tactile. Avant, on avait des BlackBerry avec des claviers où chaque touche était une lettre.
On n'avait même pas de smartphone du tout, d'ailleurs.
Ou pas de smartphone.
C'était vraiment le coup d'envoi des smartphones.
Pas de smartphone, effectivement. Mais l'iPad aussi, ça a été une nouvelle manière de travailler, beaucoup plus, qui aussi influe sur nos modes de vie, puisque maintenant, on est beaucoup plus nomades, même quand on travaille. Et la dernière en date, c'est l'Apple Watch. Évidemment, la montre connectée. Apple a fait décoller complètement le marché des montres connectées en allant bien plus loin que seulement la santé. Enfin, je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu en montres connectées, mais en gros, l'Apple Watch, on peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on fait sur un téléphone. Regarder ses photos, recevoir des mails, même téléphoner en tenant son poignet un peu à côté de sa bouche. Et le reste des montres connectées, c'est souvent réservé soit à un usage sportif, soit à un usage de santé. Donc l'Apple Watch, elle va beaucoup plus loin, évidemment. Ah oui, donc c'est ça, Steve Jobs, lui, il a vraiment inventé un système. Au premier trimestre de 2018, c'est 1,3 milliard d'appareils Apple actifs dans le monde.
D'accord.
Alors, d'appareils tout compris, iPhone, iPod, Mac. Donc c'est la stratégie du hub numérique.
D'accord.
Et il a vraiment révolutionné notamment la musique, l'industrie musicale avec l'iPod. Avant, on avait des MP3 qui étaient un peu compliqués à utiliser. C'était compliqué de mettre de la musique dessus avec des piles. Enfin bon, j'ai eu un MP3, c'était vraiment une vraie galère. Alors que l'iPod, c'est devenu tout de suite beaucoup plus simple.
Ouais, et puis il y avait aussi un effet, design quand même, qui était aussi très fort.
Bien sûr.
Sur lequel Apple a été très, très doué. Bon, on en reparlera peut-être plus tard dans la partie marketing, je ne sais pas, ou si tu veux en parler maintenant.
On peut en parler maintenant.
Ouais, parce que c'est vrai que l'iPod, c'était une révolution, mais c'était aussi beaucoup de design et de marketing. Et finalement, d'un point de vue pur techno, est-ce que c'était plus performant qu'un bon lecteur MP3? Je ne sais pas trop. Parce que c'était aussi le début des formats propriétaires.
C'est ça la différence entre Bill Gates et Steve Jobs, c'est que Bill Gates, il est peut-être dans la performance technologique, mais Steve Jobs, il est dans la facilité d'utilisation, dans l'intuitivité.
Ouais. Puis dans la beauté des objets,
je pense. Dans la beauté des objets, et c'est ça qui finalement fait que peut-être pas la majorité, mais que autant de gens se tournent vers les produits Apple, parce que c'est intuitif, c'est joli, c'est facile à utiliser. Alors qu'au contraire, Windows, c'est très performant, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus moins intuitif.
Enfin, je me souviens quand même que de mettre des fichiers, il me semble que mettre des fichiers MP3 téléchargés illégalement sur un iPod, c'était une tannée quand même. fallait passer par iTunes, machin.
Oui, mais alors ça, c'est exactement la stratégie du hub numérique d'Apple, c'est que t'es obligé de fonctionner avec tous leurs produits.
Ouais.
Si t'as un iPod, t'es obligé d'avoir iTunes. Si t'as un iPhone, c'est beaucoup plus simple d'avoir un Mac parce que ça se connecte. Enfin.
Ouais.
Alors que personne te recommandera d'avoir un iPhone et un PC, ou l'inverse, un Mac et un téléphone qui n'est pas de la marque Apple.
Oui. Alors, entre quelqu'un qui a eu le génie du matériel et quelqu'un qui a eu le génie de l'interface et qui a été capable de créer une interface facile d'utilisation où on n'a plus besoin d'entrer des lignes de code pour utiliser son ordinateur personnel, parce que finalement, c'était beaucoup ça, la révolution de Windows. Est-ce que tu vois déjà un gagnant ou tu as d'autres éléments à apporter à notre attention pour qu'on tranche?
Je peux donner un autre élément, c'était sur l'industrie musicale. Quand il a inventé iTunes, les gens, ils gagnaient pas trop. En fait, lui, ce qu'il a proposé, c'est de traiter directement avec les artistes et de vendre les téléchargements. En fait, il a un peu inventé Deezer et Spotify, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
Et la première semaine, ils ont fait 1 million de téléchargements, 100 millions la première année et 1 milliard la deuxième. Mmh. Et là, ils ont su que c'était un pari gagné. Ils espéraient faire 1 milliard, genre au bout de la cinquième ou de la dixième année, quoi. Mmh. Voilà.
Ouais. Beaucoup d'évolutions et de changements de mode de vie qui sont arrivés. D'ailleurs, puisqu'on en est là, je sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot podcast.
Non.
Mais podcast, ça vient de iPod, en fait. Et c'est-à-dire qu'à la base, un podcast, c'est un contenu vidéo ou audio qui se téléchargeait
qui se met sur l'iPod.
Sur un iPod.
D'accord.
Alors maintenant, le terme a changé et podcast, ça veut dire des contenus audio qu'on télécharge ou qu'on écoute en streaming, et voilà, je pense que c'est la définition la plus raisonnable, mais à la base ça vient de là. Donc, et moi je me souviens il y a quelques temps, souvent on me disait mais tes podcasts c'est d'audio, de la vidéo, parce qu'effectivement il y avait
oui,
de la vidéo,
vrai.
Quoi,
ouais,
il y avait des
vrai.
Podcasts en vidéo, quoi.
Ah, c'est ouf.
Voilà. Bon,
donc
alors,
voilà, est-ce qu'on prend, parce que Steve Jobs n'aurait peut-être potentiellement pas été possible sans Bill Gates, mais en même temps Steve Jobs et Apple c'est un peu partout dans notre quotidien, donc je sais pas.
Ok, bon, j'ai l'impression qu'on va devoir donner le point à Jobs quand même, parce qu'il a,
j'avoue, Team Apple,
que Apple a quand même créé beaucoup d'objets qui ont changé le quotidien dans lequel on vit, plus d'objets en fait, et qui ont aussi préfiguré de certains gros changements majeurs
et voilà,
d'usage majeur. Donc bon, allez, 1-0 pour Steve Jobs.
Il a fallu 4 ans pour mettre au point ce nouveau système d'exploitation, Windows 95. Le but de la manœuvre est de rendre le maniement de l'ordinateur aussi simple ou presque que le magnétoscope, et surtout de permettre aux utilisateurs de se relier au gigantesque réseau Internet. Reportage Jean-Claude Alanic et Pascal Stelletta.
On ne peut pas vraiment dire que les Français se sont rués comme les Américains sur le nouveau logiciel de Microsoft, même si les accros de la micro attendaient avec impatience la grande innovation technologique promise par Bill Gates. La dernière arme du conquérant américain de l'informatique, la voici sous forme de CD-ROM ou de disquette vendue entre 700 et 1000 francs.
Ok, deuxième partie, on va parler chiffres, parce que ces deux gars-là, c'était des geeks, c'était des techniciens, c'était tout ce qu'on veut, mais enfin c'était surtout des businessmen.
Et oui, c'est une qualité indispensable quand on évolue dans ce milieu, et ils l'ont eu tous les deux, c'est ce que j'ai appelé le point richesse et valorisation. Alors d'abord, Bill Gates, il a eu une idée assez géniale qui a fait sa fortune quand il a signé son premier contrat avec IBM. Il a demandé une clause particulière. Au lieu de vendre la licence de son logiciel qu'il a concocté avec Microsoft, il a demandé des droits d'auteur sur chaque ordinateur qui était vendu sous Microsoft. $3 devaient lui être reversés. Ce qui, au final, lui a fait un pactole bien plus gros que s'il avait juste vendu la licence, même des milliards. Donc là, bien joué Bill Gates. Excellente idée. Steve Jobs, lui, on l'a dit, le début de sa richesse, ça a été quand même grâce à Pixar.
Ah oui.
Ça permet aujourd'hui à sa femme de siéger au board de Disney. Disney qui est quand même l'une ou la plus grosse entreprise de divertissement au monde. Donc quand on fait partie du conseil, c'est pas mal. Et puis elle est actionnaire à 4% de Disney quand même.
D'accord, ah oui.
Alors, le point richesse et valorisation, comme on le disait. Bill Gates a été très longtemps l'homme le plus riche du monde, ça on le sait, hein. Il a été dépassé par Jeff Bezos. Mm-hmm. Au dernier classement, en mars 2019, la fortune de Bill Gates est estimée à 96,5 milliards de dollars.
Et Bezos, il est à combien, tu sais?
Et Jeff Bezos, lui, il est à 116,9 milliards de dollars.
Alors, si Bill Gates n'avait pas donné la moitié de sa fortune il y a quelques années, il serait toujours le plus riche du monde, alors.
Probablement.
Bon, on en reparlera, j'imagine.
Ouais. Microsoft est donc rentré en bourse en 86. J'ai un peu suivi le cours de l'action, bien sûr. Et ça a pas mal monté depuis janvier. En ce moment, elle tourne autour de 175-180 dollars, l'action.
Ok, bah écoute, j'ai 180 dollars
sur
mon PEL.
Et surtout, Microsoft fait partie des rares entreprises qui ont réussi l'exploit des 1000 milliards. Donc les entreprises cotées en bourse à 1000 milliards de dollars, il n'y en a que deux autres qui ont réussi dans le monde, et je te le donne en film.
Disney,
Apple,
Imagine.
Évidemment.
Ah oui, d'accord.
Apple et Amazon.
Ah bah oui, ok, d'accord. On est dans la tech, hein.
Donc pas mal. Steve Jobs, lui, sa fortune, du coup, j'ai essayé de regarder un peu combien il avait quand il est décédé en 2011, et puis aussi de suivre un peu combien aujourd'hui son héritière principale, qui est donc sa femme Lauren Powell Jobs, avait. Donc en 2011, sa fortune était estimée à 7 milliards de dollars à peu près.
D'accord.
En termes de fortune personnelle, c'est absolument pas comparable avec Bill Gates. Et depuis sa mort, donc c'est Lauren Powell Jobs qui gère sa fortune, elle est quand même devenue la sixième femme la plus riche du monde. Mais bon, c'est pas comparable avec, malheureusement, le classement des hommes. Et elle n'est que sixième quand Bill Gates est deuxième homme.
C'est intéressant, ça.
Ouais, mais c'est assez intéressant
ça
de regarder
beaucoup de choses, hein.
Qui sont les gens les plus riches du monde, ce qu'ils ont fait pour arriver là, etc.
Ouais,
je vous conseille, si un jour vous vous ennuyez, n'hésitez pas. Et en fait, la majorité de sa fortune, à elle, se compte en actions chez Apple. Et chez Disney,
ouais,
bien sûr.
Parce que 4% de Disney, ça doit coûter cher. Mmh.
Et puis, elle a donc 130 millions d'actions, à peu près, pour une valeur de 11 milliards de dollars.
D'accord.
Et comme je disais, elle siège à la Walt Disney Company, ce qui est quand même assez énorme. En 2015, on estime sa fortune à 20,7 milliards de dollars. Sachant qu'en 2011, elle était à 7.
D'accord.
Après, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est comme Steve Jobs est mort, c'est quand même plus compliqué de réussir à bien jauger. Alors, le point action Apple, elle est entrée en bourse en 80, et l'action, elle oscille entre 300 et 320 dollars.
D'accord.
Donc, c'est quand même trois fois plus cher qu'une Microsoft.
Ouais.
Et Apple a réussi cet exploit des 1000 milliards de dollars avant Microsoft, puisque exploit atteint en 2018, et c'était la première entreprise à avoir réussi.
D'accord.
Et après, Microsoft a réussi cet exploit en avril 2019. Donc voilà, après d'autres chiffres un peu marrants, si Apple était un pays, il peserait autant que la Bulgarie ou la Tunisie.
Ok,
soit
d'accord.
Soit trois fois plus que l'Islande, le Liban ou le Cambodge, voire 10 fois plus que le Monténégro ou le Mali. Et c'est bien sûr la compagnie la plus rentable du monde. Mais j'ai quand même envie de donner le point à Bill Gates, parce que si la question est qui est le meilleur businessman, c'était quand même lui, parce qu'avec son coup de IBM...
Ouais. Il a quand même réussi à faire...
En termes de fortune personnelle,
ouais.
Il a beaucoup mieux réussi. Après, Apple coûte beaucoup plus cher et valorisé beaucoup plus, mais...
Mais Apple a été aussi... Apple a aussi essuyé pas mal d'échecs dans ses créations. Je pense que...
Avant le retour de Steve Jobs, ça a été un peu compliqué, ouais.
Mais même Jobs, il a eu des... il a lancé des produits qui sont cassés la gueule ou qui n'ont pas marché autant qu'il voudrait, mais ils en ont lancé tellement plus. Mm. Enfin, on peut voir les choses de deux façons différentes, quoi. C'est, se dire que d'un côté, on a... Steve Jobs et Apple qui ont été très créatifs, qui ont lancé des trucs et qui ont connu des échecs, et c'est inhérent aussi au fait de créer et de lancer plus de choses. Et d'un autre côté, sans doute que Microsoft a géré tellement bien sa position dominante que il y a eu moins de créativité.
Le monopole.
Mais on a souvent opposé le sang-froid et le côté très... très déterminé et de Bill Gates,
ouais, une espèce au côté un peu hippie, créatif
et un peu mégalo de Jobs.
Jobs.
Mais bon, on en reparlera après.
Tout à fait.
Bon, alors on donne le point à Bill Gates, alors.
Ouais.
Allez, un partout.
Bon, alors,
Qu'est-ce que c'est encore que ce merdier? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu encore comme bordel dans cette saloperie de bacon?
Alors... Tu sais, Bernard, ça fait un moment que tu es l'élu de mon cœur.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Quand je suis en ta présence, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti.
Ah oui, c'est sûrement le processeur.
Je sens des choses à l'intérieur.
Ouais. Écoute, tu sais, Christine, j'ai envie d'être franc avec toi. Si tu n'éteins pas ton ordinateur le soir avant de partir, à l'intérieur, les composants s'encrassent. C'est normal, c'est des vieilles bécanes.
Mais je suis mal.
Eh oui, bien sûr, je comprends bien, mais je leur ai dit là-haut de changer les unités centrales. Mais il y a une telle politique du n'importe quoi au niveau de la gestion du matos à la Cogip qu'on va droit dans le mur, je te le dis.
Ah, oui, mais au niveau des sentiments, j'ai...
Tiens, regarde-moi ça, qu'est-ce que je te disais? C'est bourré de calcaire, ton truc, c'est dégueulasse.
Ah. Mais quand tu dis dégueulasse, tu veux dire que je te dégoûte?
Ce qui m'énerve, c'est que leur protocole d'acquisition électronique ne passe toujours pas la barre des 200 gigas, c'est tout.
Mais alors, nous deux, c'est possible, alors?
Oui, et le problème ne sera pas résolu tant que Berthier ne prendra pas ses responsabilités.
Bernard, je veux avoir un rapport de type sexuel immédiatement.
Ah, bah quand même, c'est pas trop tôt. T'étais là à me parler d'ordinateur aussi, je me disais. Bon, allez, on va faire ça rapidement. Tu te mets en slip chaussette, s'il te plaît.
Oh, chouette.
C'était vraiment très intéressant.
Alors, dans le point suivant, on va s'intéresser à quelque chose qui est assez emblématique, surtout pour Steve Jobs. C'est le côté marketing, justement, on en parlait, et surtout présentation. Les keynotes de Steve Jobs, c'était quand même assez fameux. Il y a même eu un film rien que là-dessus. Alors que, bon, peut-être Gates était moins connu pour ça, mais il y avait aussi des efforts marketing de Microsoft avec des fortunes variées qui valent le coup d'être mentionnées. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
J'avoue que déjà, c'est beaucoup plus facile de trouver des informations sur Steve Jobs que sur Microsoft et Bill Gates. Donc, je me suis un peu concentrée sur lui, c'est vrai. Mais d'abord, comme tu le disais, les keynotes, c'est devenu incontournable. En France, en tout cas du point de vue français, c'est un peu lui qui a importé cette manière de travailler, cette manière de présenter à l'américaine en France, alors qu'en fait, tout simplement, keynote, ça veut juste dire un axe majeur, un thème central. C'est pas du tout un truc qu'il a inventé ou quoi. Mais aujourd'hui, pour te donner des boîtes, par exemple, Orange, ils se sont un peu basés sur les keynotes de Steve Jobs pour créer leur show Hello.
D'accord.
Et donc présenter leurs nouveaux produits, etc. Okay. À l'américaine. Donc les keynotes d'Apple ont toujours été très attendues. Et puis Steve Jobs, il savait quand même comment la monter, comment préparer le show et captiver son auditoire. En 2007, il lance l'iPhone. Et alors cette keynote, je vous conseille d'aller la regarder en vidéo, c'est incroyable. Je vous ai mis des extraits que je vais vous lire. Il commence comme ça. C'est un jour que j'attends depuis 2 ans et demi. De temps en temps, un produit révolutionnaire est lancé et tout change. Apple a été déjà très chanceuse d'introduire quelques-uns de ses produits dans le monde. Un peu mégalo quand même.
Ah, mais c'était bon. Le principe. Hein.
Aujourd'hui, nous présentons 3 produits révolutionnaires. Le premier est un iPod avec un grand écran tactile. Le deuxième est un téléphone portable révolutionnaire. Le troisième est un appareil pour aller sur Internet. Désolée pour la traduction que j'ai faite moi-même.
Parce que j'avoue que l'appareil,
j'étais pas totalement sûre. Et donc là, il fait une pause.
Chier, pareil, c'est juste.
Et on sent vraiment que l'auditoire est captivé. Il se dit, mais de quoi il nous parle? Et il reprend 3 choses. Un iPod, un téléphone, une connexion Internet. Et il le redit 2 ou 3 fois. Un iPod, un téléphone, une connexion Internet. Et à la fin, il fait... Vous avez compris, on parle d'un seul objet, et ça, c'est l'iPhone. Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone, et c'est incroyable. Les gens sont en mode, ouais, c'est dingue, ton style. Toute la keynote est folle. Et il en profite pour tacler aussi ses concurrents en disant, par exemple, que BlackBerry, pourquoi ça fonctionne pas? Il dit, les boutons de contrôle sont fixés, ils sont en plastique, et ils sont utilisés pour chaque application. Donc, en fait, on ne peut pas adapter l'usage de notre application. Parce que le clavier est toujours le même. Donc ça ne peut pas évoluer et c'est pour ça que ça marche pas. Donc en plus, tiens, BlackBerry, prends-en pour ton grade. En 84, il lance le Macintosh.
BlackBerry.
Ouais, le pauvre. Petit ange parti trop tôt.
C'est bizarre ce que j'allais dire.
En 84, il lance le Macintosh, en 2001, l'iPod, et à chaque fois, c'est des présentations de ouf. Et puis, il avait une manière d'écrire aussi. Et il a écrit la pub Apple qui est incroyable et qui s'appelle Think Different.
Ah oui.
Déjà, ce slogan est ouf.
Tout le monde le connaît. Hein.
Et puis, il a écrit un texte qui, à la base, devait être... lu dans cette pub, mais qui finalement ne l'a pas été. Ça s'appelle The Crazy Ones. Et il dit « Voici pour les fous, les inadaptés, les rebelles, les fauteurs de troubles, ceux qui voient les choses différemment, qui n'aiment pas les règles. Vous pouvez les citer, être en désaccord avec eux, les glorifier, les vilipender. » À propos de la seule chose que vous ne pouvez pas faire et de les ignorer, donc ça continue comme ça. Et à la fin, c'était Think Different et by Apple.
Soyez rebelles, achetez des produits Apple.
Vraiment, mais le mec est trop fort, franchement, il est beaucoup trop fort. C'est vraiment un vrai storyteller à l'américaine et ouais. Il a vachement profité aussi de son histoire de vie qui est un peu compliquée. Ses parents qui ont été forcés de le faire adopter. Il a grandi dans un milieu. Qui était pas forcément pauvre, mais pas non plus roulé sur l'or, au contraire de Bill Gates, c'est ça. Il l'a vachement, il s'en est fait un peu une histoire, comme on connaît à l'américaine, quoi, le rêve américain, celui qui part de rien et qui réussit à construire son empire. Et il le redit dans un discours historique qu'il a prononcé à Stanford, lors d'une remise de diplôme, je sais plus en quelle année il était invité. Et c'est vraiment ça qu'il raconte, quoi. Genre, je suis partie de rien et j'ai réussi à monter mon empire, machin. Donc ça aussi, ça fait aussi partie de son propre marketing.
Ouais.
Et on le verra que c'est très important pour lui, un espèce de culte de la personnalité autour
ouais,
de ce qu'il
ouais,
était.
Ouais.
Et puis pour finir, il a fait une pub où c'était PC versus Mac.
Ah oui.
Et c'était symbolisé par deux personnages. Et vraiment, le Mac et... celui avec qui on a envie d'être, quoi. C'est un bobo, un mec créatif, stylé, à la mode, tout ce qu'on veut, dynamique. Et puis le PC, c'est vraiment le comptable. Enfin, j'adore les comptables, hein, mais c'est vraiment le cliché du petit ringard qui sait pas trop ce qu'il fait là, quoi.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
Attaque quand même déguisé qu'à moitié envers Bill Gates et Steve Jobs.
Oui. Oui.
Enfin, Bill Gates et Microsoft.
Ouais, ouais. Bah oui, c'est vrai que Bill Gates, il a toujours eu un côté vraiment geek, nerd, un peu l'image du nerd des années 80.
C'est ça.
Alors que Steve Jobs avait l'air renvoyé une espèce d'impression de coolitude.
Exactement, c'est vraiment ça, ouais. Enfin, on peut vraiment les ranger dans des clichés de lycée ou de fac, quoi, entre Bill Gates qui est toujours sur son ordi et qui travaille tout seul dans la nuit avec ses copains geeks, et puis au contraire, Steve Jobs... qui était un peu un hippie, peu populaire.
Ouais. Bon.
En tout cas, c'est l'image qu'on a de ces deux figures.
Bon, je pense, en choisissant le point qui est le meilleur sur scène, c'était un peu orienté, mais on aurait pu dire aussi qui est le meilleur en marketing. On en a parlé précédemment, donc je ne vais pas... Enfin, tu en as parlé, on en a parlé précédemment. Mais c'est vrai que le marketing, ça inclut aussi le marketing produit, le design...
Bah, les pubs d'Apple sont quand même ouf, alors que les pubs Windows... aujourd'hui en tout cas sont inexistantes.
Alors justement il y a une longue histoire contrariée entre Windows et les pubs. il y a eu beaucoup de pubs assez ridicules chez Microsoft. La première, c'était celle où il y avait Steve Ballmer qui jouait un espèce de VRP, Steve the Salesman, où tu le vois en train de vendre Windows
Steve
1
the Salesman.
avec en mode vraiment cogip, quoi. Alors c'était censé être décalé, mais bon, du coup c'était un peu chelou. Après, Microsoft a eu aussi des petits succès et ils ont fait des gros investissements pub, mais par d'autres moyens. C'était plus visible, par exemple en recrutant Larry Seinfeld, Jerry Seinfeld pardon, ou en payant une fortune pour avoir une musique des Stones pour le lancement de Windows 95. Mais il y a aussi beaucoup de trucs très ringards. Ils s'étaient aussi payés Jennifer Aniston et Matthew Perry pour faire un guide d'utilisation de Windows.
C'est
un
pas
truc,
mal, ça.
Un truc assez ridicule. Donc, bon, ça avait du sens de voir Chandler qui expliquait comment utiliser un ordinateur Windows. Puisque... Enfin non, remarque, on n'a jamais su ce qu'il faisait comme métier dans Friends, mais... On peut supposer qu'il travaillait dans l'informatique. Bon, c'était c'est vrai que... il y avait une incarnation qui allait jusque dans les produits, parce que c'est, je veux dire, même le truc du Mac maintenant avec la petite pomme qui s'allume derrière, c'est assez iconique, quoi.
Ouais.
Chose que Windows n'aura jamais su atteindre, et ça allait juste, ça culminait avec ces fameuses présentations.
Et ça va tellement loin, le bon marketing d'Apple, que quand on regarde un film Vous avez sûrement remarqué qu'il y a souvent des personnages qui ont des produits qui ont des produits Apple, que ce soit un iPad, une Watch ou un iPhone. Oui, mais en fait, ces personnages sont toujours les gentils.
Vous
verrez jamais un méchant dans un film qui a un produit Apple. Et tout ça, c'est une règle qui a été fixée par Apple. On leur dit, vous n'êtes pas obligé de payer pour utiliser nos produits. Vous pouvez les utiliser à condition que ce ne soit jamais un méchant qui l'utilise. Donc, si quelqu'un a un Huawei... c'est qu'en général, il ne faut pas trop être de son côté, quoi.
C'est marrant, ça. Bah, faut dire, en plus, Microsoft, c'est beaucoup de software, c'est compliqué de...
C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué.
À part pour les consoles, mais c'est compliqué de mettre en avant. On voit mal James Bond en train de lancer sa session Windows 11.
je sais plus le bruit, mais...
Ok, bon, le point va à notre ami Steve.
Bah, sans hésiter quand
Steve
même.
Steve Jobs.
Steve Jobs, évidemment. Et non pas Steve Wozniak.
Voilà.
Petite blague de geek.
En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. À devenir une machine. Apple a inventé Macintosh.
Bon, dernier point. Là, ça fait 2-1 pour Steve Jobs. C'est le dernier round, donc si jamais il y a égalité à l'issue de ce round-là, il faudra faire un tie-break.
Il faudra trancher.
On trouvera bien moyen de trancher. Qui est le plus gentil ?
Qui est le plus gentil ? Eh ben, malheureusement. Qui est le plus gentil ? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates, il a
Tu rues dans les brancards, quoi.
Non, mais il a toujours été hyper connu pour sa philanthropie, ouais, et ses dons énormes à des associations, même son travail avec sa fondation. On va rentrer un peu dedans plus en détail. Alors que Steve Jobs, il a jamais brillé par sa philanthropie. Mais on va commencer par ce point-là avant d'aborder leur personnalité intrinsèque. Quand il quitte Microsoft en 2008, Bill Gates, en fait, c'est pour se consacrer totalement à sa fondation. Enfin, pas totalement, parce qu'il continue à travailler sur d'autres projets, mais pour vraiment laisser plus de place à la gestion de sa fondation, qui est la Bill et Melinda Gates Foundation. Melinda étant la femme de Bill Gates, tout le monde l'avait compris, évidemment. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est éradiquer la polio du monde. Et il s'intéresse aux toilettes.
Ok.
Et oui, parce que beaucoup de problèmes, notamment la faim dans le monde, les maladies, bien sûr, les problèmes d'hygiène, la dysenterie, etc., qui viennent de mauvaises installations sanitaires. Et comme c'est des sujets qui sont pas sexy, qu'on veut pas vendre, c'est compliqué pour les chercheurs ou pour les associations de trouver des gros financements. Donc en général, ils préfèrent s'intéresser à un autre sujet, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être financés, tout simplement.
Tout simplement.
Et lui, Bill Gates, il s'est dit, moi j'ai plein d'argent, et je vais faire en sorte que les chercheurs s'intéressent à ce problème et qu'on commence à régler ce problème-là pour enfin en régler d'autres. Et du coup, il a organisé des concours avec des prix à la fin, des bourses d'études, pour intéresser les chercheurs à ce problème qui n'était pas du tout sexy, et ça a hyper bien marché, en fait. Donc il a utilisé ses ressources personnelles pour régler un problème dans le monde, et on a proposé des toilettes non polluantes, autosuffisantes en énergie, etc. Tout ça pour équiper les pays en développement. Et en fait, lui, il gère sa fondation vraiment comme une entreprise. Il n'est pas du tout dans l'affect, il n'est pas du tout dans on va choisir tel programme parce que la faim dans le monde, ça émeut les gens. Il n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment, il va chercher les secteurs de recherche qui sont pas chers pour avoir des rendements. Donc évidemment, les rendements ne sont pas en argent, ils sont calculés autrement, mais pour voir des résultats concrets le plus vite possible, voilà, d'avoir des investissements qui sont rentables. Et c'est pour ça que parfois il s'intéresse à, en fait, des projets qui n'intéressent personne d'autre, ou alors C'est pour ça qu'il se penche sur des sujets qui n'intéressent personne d'autre ou des développements qui n'intéressent pas les labos, par exemple la malaria, le paludisme ou encore la dengue. Qu'en fait, il gère sa fondation comme une entreprise. Il regarde les chiffres et les retours sur investissement. Il n'est pas du tout dans le choix de ses projets par l'émotion. C'est pas on va faire pleurer dans les chaumières en choisissant tel ou tel sujet. C'est vraiment je vais m'attaquer à tel problème parce que en investissant tant d'argent, je vais avoir un retour sur investissement.
Mais quand tu dis retour sur investissement, c'est efficacité dans la recherche et trouver des solutions.
C'est régler le problème le plus efficacement possible en investissant le moins possible, puisqu'il gère ça comme une entreprise, même si évidemment il n'attend pas de retour monétaire de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il disait ici, en parlant de sa fondation, on ne décide pas avec les émotions, mais avec les faits.
C'est très... C'est
révélateur de sa personnalité aussi, bien sûr, de sa gestion.
C'est très Steve... je suis fatigué. C'est du bon... c'est du vrai Bill Gates dans le texte.
Exactement, du Bill Gates dans le texte. Mais en fait, c'est du Bill Gates dans le texte. Mais c'est vraiment une bête de travail. Je vous conseille, pour aller plus loin, un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Dans le cerveau de Bill Gates ». C'est 3 épisodes d'1 heure. Et on se rend vraiment compte de qui il est et de à quel point son cerveau fonctionne différemment de celui de la plupart des gens, quoi. Comme vraiment un pur génie.
Le documentaire est focus sur ses activités philanthropiques, non, c'est ça?
Ça parle beaucoup de ces activités-là, même si on aborde aussi un peu toute sa vie, la création de Microsoft, etc., son intimité, sa vie de famille... dont on ne connaissait pas grand-chose, mais c'est vrai que le sujet majeur, ça reste ses activités philanthropiques. Pour vous donner quelques chiffres, vous savez que j'adore les chiffres. En 2015, il avait un budget de 5 millions de dollars, sa fondation, soit plus important que l'OMS. Elle a été fondée en 2000 et elle possède quand même 43,5 milliards d'actifs.
C'est fou.
Donc on est sur un bon truc. Et en 2015, c'est ce que tu disais quand on parlait du point richesse, il annonce qu'il donne la moitié de son patrimoine à des œuvres caritatives. Il a notamment signé un partenariat santé avec le Sahel. Et il dit justement, quand on a une fortune importante, c'est du bien public.
Et il avait incité d'autres milliardaires à faire comme lui, et je sais pas combien l'ont fait, mais...
Mais je crois que Warren Buffett, notamment, lui a donné de l'argent pour sa fondation.
D'accord.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai vu au Solidays. Ce qui me semble que tous les ans, Bill Gates vient au Solidays et fait un petit tour à un moment, un des concerts, fait un petit tour et puis fait coucou.
D'accord, ok, je savais pas.
En mode, je suis là parce que c'est un des soutiens des Solidays et du Cid Action.
Okay.
Donc j'ai eu la chance de l'apercevoir, c'était incroyable. Et puis dans le documentaire et dans les différentes sources que j'ai pu sur lesquelles j'ai pu me pencher pour préparer ce podcast, Bill Gates, il est vraiment présenté comme le gentil manager, certes une bête de travail, mais le timide, le
gentil, c'est peut-être pas le mot exact quand même, peut-être
non,
moins,
t'es pas gentil,
mais moins tyrannique que
voilà, pas tyrannique
que Steve Jobs, mais ça.
Alors
mais
que...
par contre très tenace, très un peu hyper obtus aussi, quand même, si j'ai bien compris, très concentré sur le résultat, qui peut te harceler pour avoir un truc.
En même temps, pas forcément inaccessible pour ses employés, ouvert à la discussion. Par exemple, sa femme Melinda, il l'a rencontrée parce qu'elle avait été employée chez Microsoft et ils avaient organisé un dîner à je sais plus quelle occasion. Ils se sont retrouvés à côté et ils ont commencé à discuter et hop, l'amour, et hop ça a fait une famille. Au contraire de Steve Jobs, qui est décrit par beaucoup de ses employés ou ses ex-employés comme complètement mégalo. Il y avait un culte de la personnalité tant autour des produits Apple que autour de Steve Jobs dans la boîte, et lui il a toujours cultivé ça. C'est aussi pour ça qu'il s'est fait dégager par John Sculley au début d'Apple. Et c'est un contrôle freak, lui pour le coup il a un petit côté psychopathe, quoi.
Puis très
en tout cas on le présente comme ça,
très gourou, un peu new age, beaucoup porté sur ces trucs là et justement bon, on en reparlera après, mais je voudrais dire un mot après en conclusion sur la série Silicon Valley, mais on en reparlera après.
Et lui, au contraire, il est pas connu pour ses œuvres caritatives. Alors, ça veut pas dire qu'il en a pas fait, mais bon, c'est pas vraiment ça qu'on lui accorde, alors que Bill Gates, bon, ça va avec, quoi. Donc j'ai pas vraiment trouvé d'infos sur lui-même, mais par contre j'ai trouvé pas mal de trucs sur sa femme, Lauren Powell Jobs, et en général dans ce genre de situation ça marche quand même vachement en couple, donc on peut considérer que c'était un peu lui quand même. Elle est très proche d'Hillary Clinton. D'accord. Elle a donné beaucoup d'argent au Parti démocrate depuis très longtemps. Elle soutient notamment la cause des immigrés. Et puis elle a une fondation aussi qui s'appelle l'Emerson Collective. Elle soutient ou rachète des entreprises et des organisations pour leur permettre de continuer leurs actions. Donc évidemment, c'est des entreprises ou des organisations qui font quand même du bien aux humains ou à la planète et des sujets qui lui tiennent à cœur. Voilà.
Bon, bah, il va falloir qu'on décide alors. Alors le point, tu l'as déjà attribué à Bill Gates de toute
c'est
façon.
C'est vrai. Donc on est à 2-2.
Donc on est à 2-2. Donc il faut trouver un moyen de les départager. Ou pas.
Mais en même temps, une égalité, c'est bien. Ils sont quand même. Enfin, aujourd'hui, tous les deux ont révolutionné la technologie et ont fait que notre quotidien n'est plus le même qu'il y a 25 ans, voire juste il y a 10 ans, en tout cas pour Steve Jobs.
Bon, alors, j'avais dit que je parlerais de Silicon Valley, la série de HBO, et c'est une série vraiment géniale, même s'il y a des saisons qui sont un peu moins réussies que d'autres, notamment la dernière, malheureusement. On finit vraiment sur une très mauvaise saison, ça c'est triste. Mais c'est une série qui est vraiment incroyablement drôle et qui en même temps parle vraiment profondément de ce qu'est le monde de la tech. Alors c'est plutôt le monde de la tech des années 2010, mais bon, ça n'est que l'héritage de ce qui s'est passé dans les 30-40 années précédentes. Et Bill Gates a dit que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le monde de la tech, regardez Silicon Valley. Et il dit je m'identifie beaucoup au personnage principal qui est interprété par Thomas Middleditch. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé toutes les saisons de Silicon Valley, parce que vraiment c'est une série que je ne saurais trop recommander. Et quand j'ai vu les vidéos de Bill Gates qui prenait la parole, j'ai vraiment vu Thomas Middleditch. On sent qu'il y a eu un truc qui s'est passé quand même dans sa façon d'interpréter le personnage. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments dans la série qui font écho à des éléments de la vraie vie.
Ouais, ils l'ont vraiment bossé comme ça, c'était un objectif.
Alors il y a le côté un peu gourou, méditation, machin, très présent dans la Silicon Valley qu'on voit beaucoup dans la série. Donc ça c'est quand même un truc qui était très, très imputable aussi à Steve Jobs. Et Bill Gates fait un petit caméo dans la dernière saison, dans le dernier épisode de Silicon Valley.
Ouais.
Donc j'ai envie de donner la petite pichenette finale pour faire basculer le match pour Bill Gates, juste parce qu'il est apparu dans Silicon Valley.
Mais
bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce point. Vous pouvez rester sur l'égalité. Et dernier trivia perso, en fait, quand j'étais jeune, je ressemblais beaucoup à Steve Jobs jeune. C'est pas des blagues.
C'est pas faux, il y a un truc, effectivement.
Et même, on me disait que je ressemblais aussi à Ashton Kutcher, et Ashton Kutcher a joué Steve Jobs, donc voilà.
Tu vois,
la boucle est bouclée.
Tout est fait pour.
Donc je joue un peu contre mon camp.
Selon des sources très fiables, le coronavirus aurait bien été inventé par Bill Gates. Selon le témoignage de son ancienne femme de ménage, il aurait créé le virus un soir avec sa boîte de chimie 2000. Aussitôt trouvé, il s'est inoculé une forme bénigne du virus. Il s'est ensuite rendu en Asie où, déguisé en M, il s'est fondu dans la population. Il a alors cherché un animal pour lui transmettre le virus. C'est le pangolin qu'il a choisi. On connaît la suite. Pourquoi a-t-il fait ça? D'après une confidence, c'est d'abord le plaisir d'enculer un pangolin. Et ensuite, bien entendu, pour une histoire de gros sous. Car peu de gens le savent, mais c'est Bill Gates qui détient le brevet de la chloroquine et qui, pour en faire la promotion, s'est habilement déguisé en scientifique. Eh oui, c'est une révélation BFN. En fait, le professeur Raoult et Bill Gates ne font qu'un.
Bah merci beaucoup Aurélie.
Bah merci, je vous reconseille une dernière fois si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, le bon docu sur Bill Gates qui s'appelle donc Dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix.
Et moi je vous reconseille Silicon Valley parce que c'est une des séries les plus drôles et les mieux écrites que j'ai jamais vues depuis très longtemps et qui parle tellement tellement bien de ce monde complètement fou de la tech et de la Silicon Valley. Bah c'est axé sur la tech du coup, donc c'est pas le même angle, mais je pense que ça ça raconte vraiment des choses qui se passent dans la vraie vie, mais de manière ludique. C'est un peu le baron noir de la Silicon Valley, quoi. On peut vraiment voir comme ça.
Je vais aller regarder ça.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie ?
Peut-être prochainement dans d'autres podcasts, qui sait ? Et puis sur Twitter, évidemment, et sur les autoroutes. Si
okay.
vous prenez la route, n'hésitez pas à vous brancher sur le 107.7.
Bah, merci.
Merci à toi.
C'est qui le plus fort est un podcast Micro-Stockholm, produit, réalisé et animé par moi-même, Martin Gamara, avec tout un tas d'expertes et d'experts aux talents indéniables qui viennent vous raconter tout ça, qui font un gros travail de préparation, qui passent beaucoup de temps avant à préparer les épisodes pour que vous puissiez apprendre plein de choses sur les deux participants. Donc si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas, ça se passe sur Tipeee. Et puis n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, sur les affrontements que vous avez envie d'avoir, si vous êtes d'accord ou pas avec le résultat final, et si vous avez des choses à ajouter, on est toujours preneur. Allez, à très bientôt tout le monde.
À bientôt.